Bonjour David, bonjour à tous. Le lancement dans quelques jours de la seconde campagne de vaccination contre les papillomavirus dans les collèges sous l'égide de l'ARS et de l'éducation nationale. L'ancienne école Jules Ferry à Bressuire rasée à la place un nouveau bâtiment qui abritera les archives municipales mais également de l'Aglo de B. Films, conférences, tables rondes, expos, spectacles, le programme de la nouvelle édition du festival Belle la Différence qui débute ce samedi pour le moins impressionnant. Premier match officiel des Chamois hier soir, un intré en Coupe de France et première victoire. Damien Charron, le coach niortais, sera avec nous dans cette édition. Quant à la météo, nuages, pluie et vent, c'est le programme de notre après-midi. Début de semaine agité pour les gendarmes. Trois personnes ont été interpellées après une course-poursuite dans la nuit de lundi à mardi dernier. L'histoire a débuté à Cerizay lorsqu'une patrouille du PSIG repère un véhicule arrivant à vive allure, avenue du Général de Gaulle. Refusant d'obtempérer, le conducteur, âgé de 16 ans, roule à plus de 150 km par heure en direction de Pouzauges où il réside. Ce dernier et son passager avant, un Choletais de 19 ans, ne se sont pas contentés de prendre la fuite. À plusieurs reprises, en effet, les forces de l'ordre se sont vues adresser des doigts d'honneur avant que la voiture ne fasse demi-tour et ne percute par deux fois le véhicule de gendarmerie. Appelés en renfort, les gendarmes cerisés ont alors déployé une herse à l'entrée de Saint-Mémin, ce qui a permis de stopper la folle épopée de ce groupe de jeunes. Un troisième individu, 34 ans, originaire des Yvelines, était en effet également de la partie dans cette virée nocturne qui visait à commettre des cambriolages, comme en atteste le matériel saisi dans leur véhicule. Alcoolisé, sous l'emprise de stupéfiants, les trois individus devront répondre de leurs actes devant la justice. Les deux majeurs seront convoqués devant le tribunal de Niort dans un an. Quant au chauffard mineur, il a été placé sous la responsabilité du parquet de la Roche-sur-Yon. Les gendarmes, dont le véhicule a été percuté, contusionnés, ils se sont vus prescrire une journée d'ITT. L'ARS Nouvelle-Aquitaine et l'Éducation nationale lancent la deuxième campagne de vaccination contre les papillomavirus. L'Agence régionale de santé a rappelé toute l'utilité de se faire vacciner alors que les HPV sont à l'origine de 6400 nouveaux cas de cancer chaque année, en sachant que 90% des infections liées aux papillomavirus sont évitées grâce au vaccin, lequel est donc proposé à tous les élèves de 5e dans les établissements qui participent à l'opération depuis l'an dernier, 204 collèges précisément dans la Côte d'Émile de Poitiers. Cependant, il existe toujours une certaine réticence chez certains. Benoît Elbod, le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, souligne pourtant tout l'intérêt de la démarche qui a largement fait ses preuves dans d'autres pays comme l'Australie ou encore le Royaume-Uni. Benoît Elbod.
Quand on a une vaccination efficace, on arrive pratiquement à éradiquer ces cancers. En tout cas d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire que le nombre de cas est considéré comme pratiquement anodin par rapport à la population. Ces pays, pour réussir à avoir un taux de vaccination important, ont mis en place une proposition de la vaccination dans les collèges aux 5e à 12 ans, qui est l'âge recommandé pour pouvoir faire cette vaccination. C'est aussi parce que d'autres pays l'ont fait avec des taux de plus de 70% des populations vaccinées depuis plus de 10 ans, que l'on a un très grand recul sur le vaccin et qu'on est extrêmement rassuré sur les vaccins et sur les éventuels effets secondaires, puisqu'on a pu suivre les effets de ce vaccin en population extrêmement importante. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de savoir que ce vaccin est extrêmement sûr.
La campagne de vaccination totalement gratuite contre les papillomavirus dans les collèges va donc débuter dès la fin de ce mois de septembre, de manière à pouvoir effectuer la piqûre de rappel également durant l'année scolaire de 5e. Deux médecins généralistes, les docteurs Carnero et Laurendeau, vont rejoindre à compter du 1er octobre le centre public de santé Antenne de Thouars, situé sur le site hospitalier Thouarcé. Les deux praticiennes installées en libéral dans le Thouarcé vont poursuivre leurs activités de médecine générale au sein du centre de santé. Elles poursuivront le suivi de leurs patients actuels ainsi que les patients du centre public de santé suivis par le docteur Thérouse, dont la cessation d'activité est prévue au 31 octobre prochain. Ce serait une première dans notre département, un bâtiment mutualisé de conservation d'archives à Bressuire. Le projet a été présenté mardi soir au conseil communautaire. C'est la ville de Bressuire qui le porte, mais l'agglo participe à un tiers du reste à charge sur un ensemble hautement subventionnable, notamment du fait qu'il soit mutualisé. La DRAC apporterait ainsi 700 000 euros sur les 2 800 000 nécessaires pour la construction d'un bâtiment neuf d'une surface de 700 mètres carré en lieu et place du bâtiment principal de l'ancienne école Jules Ferry. Gilles Pétraud, vice-président de l'Aglo de B.
Les premières études qui ont été faites donc nous ont amené à imaginer un projet mutualisé avec la ville de Bressuire, puisque pour l'utilisation des bâtiments, pour le personnel qui sera, et puis aussi parce que la DRAC et les services des archives départementales nous ont poussé à faire quelque chose de mutualisé. Bon, il faut bien dire que le niveau de subvention de la DRAC incite aussi fortement à faire quelque chose en commun.
Alors, comment sont stockées actuellement les archives ?
Une partie est stockée dans un ancien bâtiment, une ancienne maison, c'est la maison du gardien, sur le site de Saint-Porchaire, mais bon, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis le reste, eh bien, c'est encore réparti dans un certain nombre de bâtiments qui étaient des bâtiments des anciennes collectivités, voire qui sont des archives stockées dans des armoires, dans des bureaux de gens qui voudraient bien les voir partir parce que ça leur ferait de la place.
La ville de Bressuire avait aussi besoin d'un nouveau local de stockage pour ses archives. L'ancienne école Jules Ferry était libre, mais pas du tout adaptée. Emmanuel Ménard, maire de Bressuire.
Les normes imposées pour la bonne tenue des archives font que même le sol en fait de l'ancienne école ne convenait pas compte tenu du poids des archives que nous allions y mettre. Donc nous sommes partis sur une destruction et reconstruction.
Alors ça peut sembler un peu décevant que de stocker encore des papiers en tout genre, mais la loi l'y oblige.
Oui, il y a effectivement, on part vers le numérique pour certaines choses, mais le numérique ne garde pas non plus suffisamment longtemps techniquement les données archivées. Donc il y a certains documents où il faut absolument encore avoir des traces papier.
Selon le projet présenté mardi, le bâtiment mutualisé de conservation des archives à Bressuire coûterait 2 800 000 euros, subventionné à hauteur d'1,3 million. Le reste à charge pour l'agglo avoisinerait 350 000 euros. Il resterait d'un peu plus de 700 000 euros pour la ville de Bressuire. À l'heure où les Jeux paralympiques ont enthousiasmé le public, le président du festival Belle la différence, qui ouvre ce samedi en Bocage-Bressuire, reste lucide. Claude Marché, au micro colline de Jacqueline Pinon.
Oui, parce qu'à un moment ou à un autre, on est en admiration par rapport à l'exploit. Mais c'est d'abord l'exploit sportif. Certes, c'est une personne en situation de handicap, mais c'est d'abord un exploit sportif. Et ces personnes-là veulent être considérées comme des sportifs et au-delà de ça, comme des citoyens lambda. Et c'est ça qu'il faut que notre regard, notre manière de vivre ensemble permette au quotidien. Et cultivons nos différences pour ne pas tomber dans l'indifférence. Un regard bienveillant, ça suffit pas, c'est aussi aller vers l'autre et que le handicap visible ou invisible ne soit pas une barrière pour entrer en relation. On va surtout amener les citoyens en situation de handicap à avoir un autre regard sur d'autres formes de handicap et puis le citoyen entre guillemets valide à avoir un regard quelque part, je dirais, ordinaire comme les autres.
26 films, des conférences, des tables rondes, des expos, des spectacles, autant de temps fort pour mieux se connaître et apprendre à vivre ensemble. Claude Marché.
Des films qui vont être poignants, attachants. Des soirées avec conférences et films. Un autour du handicap et du vieillissement. Un autre autour de la pérédance, c'est-à-dire lorsqu'une personne en situation de handicap, quand elle est stabilisée, notamment dans la maladie psychique, devient un professionnel aidant, ayant eu une formation et connaissant à la fois cette maladie psychique. Donc là, il y aura une soirée le 3 octobre avec un superbe projet, Bateau-thérapie, un projet qui s'est joué sur Angers. Les gens ont rénové des anciens gréments et se sont rénovés au travers de ça. Voilà, quelques soirées. Une soirée conférence également avec Michel Bromet-Camus autour de l'arrivée du handicap dans la famille. Une épreuve, mais comment on peut aussi se dépasser au travers de ce qui arrive dans notre famille.
Et ce ne sont là que quelques exemples de cette belle programmation imaginée par Claude Marché et son équipe de bénévoles avec un premier rendez-vous ce samedi 28 septembre, non pas au fauteuil rouge, mais à la salle de la Griotte à Cerisay, avec la troupe L'Envol pour un spectacle qui pose des questions, donne des réponses, mais pousse surtout à la réflexion. Puis à partir de lundi prochain, le festival prendra ses quartiers au cinéma Le Fauteuil Rouge avec un premier documentaire, handicap et vieillissement et réciproquement, suivi d'une conférence animée par le sociologue Michel Billet. L'inauguration officielle de Belle la Différence est prévue le mardi 1er octobre au Fauteuil Rouge. Les places de parking réservées aux personnes en situation de handicap seront bien disponibles pendant le festival. Ce n'était pas le cas pendant la Foire Exposition où les organisateurs se les étaient appropriés dans une certaine indifférence. Le musée de Bressuire sort de ses murs en écho au concert de la messe de Pierre Lucet par la chorale Cantamus, commémorant l'inauguration des vitraux d'Argentonnet le 14 septembre dernier en l'église Saint-Gilles d'Argentonnet, puis le 22 en l'église de Saint-Martin-de-Sanzé. Le musée de Bressuire, qui présente notamment la plus grande collection publique de Max Saint-Grand, considéré comme l'un des plus grands verriers et vitralistes du XXe siècle, propose cette semaine plusieurs rendez-vous autour du thème des vitraux. Précision avec Jérôme Levitsky, le conservateur des musées de l'Agglo de Bay.
Nous allons proposer une conférence argentonnée consacrée à Max Saint-Grand et puis également une visite guidée autour du vitrail à l'église Notre-Dame de Bressuire et qui se prolongera au musée à Bressuire. Ceci dans le cadre d'un partenariat avec Argentonnet, avec la bibliothèque et Cantamus. On crée des animations autour d'une messe qui a été recréée par Argentonnet et donc qui a été créée une messe pour l'inauguration des vitraux à l'époque.
C'était il y a 60 ans, je crois. Hein.
C'est ça, exactement. Oui. Les associations Argentonnet ont donc recréé cette messe et donc nous, comme c'est autour du vitrail, nous associons aussi.
La conférence sur Max Saint-Grand par Jérôme Levitsky, le conservateur des musées de l'Agglo de Bay que vous venez d'entendre, aura lieu ce jeudi à 18h30 à la bibliothèque d'Argentonnet. Quant à la visite guidée pour découvrir les vitraux de l'église Notre-Dame, suivie de la découverte des œuvres en verre de Max Saint-Grand, musée Bressuire, elles auront lieu samedi. Le rendez-vous est donné à 15h30 devant l'église. À noter également que samedi au midi à partir de 10h à la bibliothèque d'Argentonnet, Morgane Tirlik, médiatrice culturelle au musée Bressuire, proposera un atelier de réalisation d'un photophore en papier vitrail. Atelier ouvert à partir de 8 ans. Inscription conseillée au 05 49 65 70 22. Bonne nouvelle pour les familles du Thouarcé. Il y aura bien une deuxième édition de Festijeux à la salle des fêtes de Thouars Saint-Radégonde pendant le long week-end du 8 au 11 novembre. Comme pour la première édition qui avait connu un large succès, de nombreux jeux seront proposés pour tous les âges, y compris des jeux qui viennent d'être lancés sur le marché. Et puis, autre bonne nouvelle, l'entrée restera gratuite. Toujours à Thouars, à partir de lundi prochain, la base de vie du chantier de la future médiathèque s'installera sur la place Jeanne d'Arc. Elle abritera le réfectoire, les sanitaires et les vestiaires des ouvriers, ainsi qu'une salle de réunion pour les entreprises. Conséquence, des difficultés de stationnement, de circulation et une déviation. Et ceci pour plusieurs mois. L'actualité sportive et cette victoire des Chamois hier soir dans la Vienne pour leur premier match officiel de la saison. Un succès 2-1 à Nintré. Nintré, une équipe de Régional 3. Damien Charron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce journal. Vous êtes justement l'entraîneur des Chamois. Je le disais il y a un instant, premier match officiel, premier succès. Après quand même avoir été cueilli un peu à froid hein, dès l'entame du match.
Ouais. Mais on était un petit peu prévenu pourtant que l'adversaire avait l'habitude de mettre beaucoup d'intensité dans ses débuts de match. Et ils en ont encore fait preuve là cette fois-ci hier. Donc heureusement qu'on a pu et qu'on a su réagir très vite. Ce qui aurait peut-être sinon pu compliquer le déroulé du match.
Alors ce déplacement à Nintré hier soir justement a été plutôt bien suivi par les supporters.
Ouais, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Ça montre aussi un petit peu les coulisses du club ou les bons côtés de ce qui se passe en ce moment avec des supporters qui nous suivent, beaucoup de bénévoles qui manifestent leur envie quand même de continuer à nous aider, pour essayer de restructurer l'ensemble du club. Donc c'est à l'image un petit peu de ce qui se passe en coulisses et qui est pas forcément toujours mis en avant. Donc c'est quelque chose qui était important et une bonne expérience pour nos jeunes joueurs.
Voilà. Alors justement, Damien Charron, dans quel état d'esprit êtes-vous ce jeudi?
Si on prend l'aspect sportif, on est très heureux. Forcément, enfin très heureux d'avoir fait ce résultat hier et de s'offrir un deuxième match officiel dans la semaine. Donc voilà, malgré l'incertitude encore de notre niveau de compétition, qui va j'espère statuer sur cette fin de semaine. Donc voilà, sur l'aspect sportif, c'était positif. On a vu des joueurs à l'image de ce qui dégage au quotidien à l'entraînement, des joueurs investis, sérieux, rigoureux, voilà, c'est important, et puis surtout des joueurs heureux à la fin du match, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça contraste un petit peu, pardon, aussi avec la semaine, une semaine compliquée aussi pour les salariés de la SA qui ont reçu officiellement leur lettre de licenciement. Donc on a aussi une grande pensée pour eux, même si certains étaient présents au match hier, mais c'est important de souligner aussi la pensée qu'on peut avoir pour eux, malheureusement, qui subissent de plein fouet cette situation.
Tout à fait, oui. On le sait, hein, Damien Charron, les recrutements étant impossibles pour constituer un groupe, vous basez donc sur le Vivi actuel, un Vivi constitué essentiellement de jeunes, hein.
Oui, c'est ça, mais là on se base sur la majorité des garçons qui ont repris avec le groupe réserve fin juillet, qui sont encore présents pour la majorité d'entre eux encore, hein. On a eu quelques départs pour d'autres projets. Et puis on a eu l'apport hier de jeunes U17 aussi qui ont bien fait le travail, comme on dit, qui ont apporté beaucoup de fraîcheur et de dynamisme aussi lorsqu'on a fait appel à eux en cours de match. Donc ça fait un bon amalgame et c'était intéressant.
C'est intéressant, oui, tout à fait. Désormais, le prochain rendez-vous pour vos joueurs, eh bien ce sera dès ce samedi, hein.
C'est ça, ce sera samedi. Alors on a un peu encore d'incertitude sur le lieu du match, mais voilà, ce sera samedi. Face à Hervault Saint-Jouin. Donc j'espère qu'on va le savoir assez vite, bien évidemment.
Et ce sera de nouveau en Coupe de France. Damien Charron, entraîneur des Chamois Niortais, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Colline Info Midi.
Merci à vous.
Toujours en sport, tenez, l'agglomération du Choletais vient de dévoiler les premières images du futur Palais des Sports qui accueillera notamment les matchs de Cholet Basket. Une arène de 6000 places pour un coût de 59 millions d'euros. CB y évoluera à partir de la saison 2028-2029. D'autres disciplines pourront également y évoluer. On parle de handball, de volleyball, de gymnastique ou encore de boxe, mais aussi des spectacles et autres séminaires.